radio.
Et bonsoir et bienvenue sur ma radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 30e émission. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité que j'apprécie tout particulièrement pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va nous faire découvrir. Une nouvelle chronique que je ne connais pas du tout, dans un élément que je ne connais absolument pas. Et bien sûr, un invité, un live toujours plus spectaculaire. J'espère que ça vous plaira.
L'invité du jour.
Et nous nous retrouvons avec Jean-Luc Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
J'espère que vous allez bien et que vous êtes content de me retrouver, enfin de nous retrouver sur ma radio ce soir.
Je suis ravi de découvrir ces locaux magnifiques.
Ben, je suis très content alors que vous soyez à l'aise ici. Je vais commencer par une petite question. Je sais que vous êtes chargé de mission sur le festival Rencontrer Racine qui se déroule sur 3 jours à Audincourt chaque année. Donc je vais vous demander un peu de m'expliquer exactement. Donc, de me préciser qu'est-ce qu'est le festival Rencontre et Racine et quel est votre rôle dans ce festival.
Alors, Rencontre et Racine, c'est un festival effectivement qui a lieu sur 3 jours, un festival des cultures et des musiques du monde. Voilà, donc c'est pas seulement aussi que de la programmation musicale, c'est également aussi un village associatif.
Oui.
80 associations présentes qui œuvrent dans le caritatif, l'humanitaire, c'est-à-dire.
Et c'est ce qui est d'autant plus intéressant justement de faire un festival qui arrive à réunir musique et œuvres caritatives en même temps, c'est assez fort quoi, je veux dire.
Oui, et d'autant plus que ça attire plus de 42 000 festivaliers sur 3 jours avec une programmation de 20 groupes, des artistes effectivement phares, mais aussi beaucoup de découvertes.
Très bien, d'accord. Justement, vous nous avez parlé de 3 jours et justement de certains groupes qui viennent chaque année. Je vais vous demander si cette année 2018, avez-vous déjà programmé les dates pour ce festival?
Alors, je suis dans la programmation actuellement,
oui.
Évidemment. Nous allons annoncer d'ici une semaine quelques groupes. Voilà, effectivement, peut-être que je vais vous livrer un nom tout à l'heure.
Peut-être, d'accord. Bah, écoutez, nous serons impatients de savoir les noms qui vont être à l'affiche pour ce festival. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans votre vie un peu plus personnelle. J'aimerais bien savoir comment vous avez créé en fait ce festival à la base. Qui ont été les personnes qui vous ont aidé? Je ne sais pas si c'est vous seul ou alors un groupe de personnes qui avaient créé ce festival.
Comme je vous l'ai dit, c'est un service culturel dont je suis chargé de mission. Donc c'est une ville, une municipalité, la ville d'Audincourt qui a créé ce festival. C'était en 1989.
Ah oui.
L'idée était de réunir les différentes communautés du pays de Montbéliard. Peugeot avait attiré 42 000 ouvriers, donc c'était quelque chose d'assez énorme. Et différentes communautés faisaient des repas, des groupes folkloriques et tout ça. Et l'idée, c'était de réunir et de faire connaître ces différentes cultures à travers des spécialités culinaires, de l'artisanat et aussi de la musique.
D'accord.
Donc voilà, il s'est beaucoup développé depuis.
D'accord. Je vais vous demander, est-ce que vous occupez d'autres festivals, d'autres choses, mis à part Rencontrer Racine ou...
Oui, effectivement, je travaille également sur le Festival de la bande dessinée, sur une manifestation qui s'appelle La campagne à la ville, les littératures étrangères également, et d'autres manifestations, des expositions de peinture également.
Très bien, donc évidemment, une belle variété de choses. Pour finir, je vais vous demander un petit peu quel a été votre parcours, comment vous en êtes arrivé là en fait, qu'est-ce que vous avez fait, peut-être pourquoi pas comme étude pour en arriver là. Moi, je trouve ça très intéressant de savoir comment les invités...
Alors, je suis de formation bibliothécaire, c'est-à-dire j'ai dans l'option discothèque. Donc, je suis discothécaire de métier, et j'ai effectivement eu un parcours dans la musique. J'ai également aussi beaucoup travaillé dans les associations, l'organisation de festivals, plutôt rock à l'époque.
D'accord, ok. Après, je veux dire, vous avez les personnes que vous invitez dans votre festival, c'est des groupes différents. Est-ce que, ce sont des groupes qui sont totalement différents ou alors est-ce qu'il y a... Il y a des similitudes entre chaque groupe?
Oui, c'est une très bonne question. Oui, effectivement, Rencontre et Racine, comme son nom l'indique, c'est un festival qui veut réunir des publics très différents, multigénérationnels.
D'accord.
Donc, une programmation qui tient compte, effectivement, de cette volonté de faire rencontrer des publics qui, habituellement, vont... Par exemple, une grand-mère qui peut écouter du rap, je trouve ça extraordinaire.
Oui,
donc, c'est un peu notre volonté. Voilà. C'est la diversité
festival.
De ce festival.
Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir à ma radio. Peut-être que vous allez me donner dans la suite de l'émission un petit nom, un petit artiste qui va être là à Rencontre Racine, pourquoi pas. Je tendrai l'oreille pour savoir. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps d'être venu à ma radio. J'espère que ça vous a plu.
Merci, et très intéressant.
Merci beaucoup d'être venu. Et nous écoutons tout de suite Queen of the Stone Age. Vous êtes bien sur ma radio, j'espère que vous passez une bonne soirée. C'était Queen of the Stone Age, vous êtes bien sur ma radio. Et tout de suite, l'émission ciné.
L'émission ciné.
Et comme d'habitude, nous retrouvons Robert pour l'émission ciné, pardon. Comment vas-tu, Robert ?
Mais très bien, et toi ?
Mais ça va très très bien, je suis très content de savoir ce que tu vas pouvoir m'apprendre ce soir.
Bah, je suis également très content. Donc, bonsoir à toutes et à tous. La chronique ciné du jour va être consacrée à Steven Spielberg, puisqu'est sorti hier son dernier film en date, Pentagon Papers. Donc, littéralement, les papiers du Pentagone. Donc le sujet est le suivant, en 1971, la première directrice du journal The Washington Post, Katharine Graham, incarnée par Meryl Streep et son rédacteur en chef Benjamin Bradley, incarné par Tom Hanks, lutte contre le gouvernement fédéral pour publier le Pentagon, le Pentagon Papers, c'est-à-dire des pages confidentielles et secret défense qui dévoilent la responsabilité et l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam de 1945 à 1967. Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que sa gestation s'est faite sur une période très chargée pour Spielberg, qui continuait en parallèle du tournage de Pentagon Papers à œuvrer sur son prochain film de science-fiction très ambitieux, Ready Player One, qui sortira dans quelques mois. Et désolé pour cet accent anglais un peu nul.
Mais pas de problème.
Mais on va revenir un peu sur son créateur, Steven Spielberg donc, pour lequel plusieurs questions demeurent. Qui est vraiment Steven Spielberg ? Pourquoi est-il considéré comme le roi du divertissement et comment a-t-il commencé ? Le petit Steven Alan Spielberg est né le 18 décembre 1946 de l'union d'un père créateur de l'ordinateur GE-225 et d'une mère professeure de piano. Il déménage ensuite dans le New Jersey puis en Arizona.
Pas de problème, okay.
Steven est un élève médiocre car sa seule raison, son seul moteur est de devenir réalisateur. Et c'est ainsi que muni d'une caméra 8 mm piquée à son père, qu'en autodidacte il tourne à l'âge de 12 ans son premier essai, un western de 4 minutes intitulé The Last Gunflight.
Donc à 12 ans, il filme son premier western tranquillou comme ça.
C'est ça, il est déjà...
Steven Spielberg, pas de problème.
C'est Spielberg, hein. Donc, après avoir réalisé d'autres courts-métrages, ses capacités techniques lui permettent de décrocher un contrat de 7 ans avec Universal. Bon, j'arrête de faire l'accent anglais.
Non, mais moi, il me va, ton accent. Moi, je le trouve bien, hein. Y a pas de souci.
Merci beaucoup. Donc voilà, il commence par réaliser le premier épisode de la série prolifique Columbo. Mais c'est en 1971 que sort sa première véritable œuvre, le téléfilm Duel, qui raconte l'histoire d'un camion dont le chauffeur reste invisible au spectateur et qui poursuit sans relâche un voyageur de commerce. Donc voilà, tourné avec peu de moyens et en 12 jours, le succès est tel que Duel connaît une exploitation au cinéma 2 ans plus tard. Son prochain film, cependant, Sugarland Express, malgré de bonnes critiques, connaît un échec commercial cuisant. Mais le succès résidant également dans l'échec, c'est avec ce film que Spielberg collabore avec le grand compositeur John Williams pour la première fois, qui composera, comme tu le sais, les bandes originales de beaucoup de ses futurs films, 22 pour être précis. Voilà donc, après avoir galéré pour financer son nouveau projet, Spielberg réalise donc avec difficulté Les Dents de la Mer en 1975. Et... contre toute attente, le film est un succès monstre, devenu mythique. Les Dents de la Mer est d'ailleurs considéré historiquement comme le premier blockbuster américain, rien que ça.
D'accord.
Donc, suite à ce triomphe, Spielberg dispose d'une grande liberté créative. Il a alors envie de faire un film ayant pour sujet les extraterrestres pacifiques. Donc sort en 1971 Rencontre du troisième type, qui connaît une fois de plus un grand succès. Et c'est d'ailleurs sur le même principe qu'il créera l'une de ses plus beaux films et l'un de ses plus grands succès, E.T. Ensuite, voilà, durant sa carrière, il a réalisé plein de films mythiques comme la saga Indiana Jones, Jurassic Park, La Guerre des Mondes, Minority Report. Voilà, il a également réalisé un autre style de film, traitant de sujets plus sérieux et de faits réels comme La Couleur Pourpre, Empire du Soleil, La Liste de Schindler, Amistad, Lincoln ou encore Le Pont des Espions. Son dernier film en date, Pentagon Papers, appartient donc plus à la seconde catégorie. Après, il y a beaucoup d'excellents autres films que j'ai pas cités, mais pour bien parler du travail de Spielberg, faudrait au minimum prévoir une journée. Voilà donc, étant le réalisateur le plus rentable de l'histoire du cinéma, les films de Spielberg auront pour la plupart marqué de fer rouge leur époque, tout en restant intemporels, et resteront à jamais dans toutes les mémoires. Je vous laisse donc découvrir son dernier film en salle, Pentagon Papers, afin de déterminer s'il est à la hauteur. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette chronique.
Merci à toi de nous avoir appris encore des choses sur ce réalisateur. J'irai le voir, franchement, ça m'a donné envie d'aller le voir, donc j'irai, je pense, le voir au cinéma.
Ah, parfait.
Et je te remercie pour cette chronique qui nous apprend des choses à chaque fois.
Merci.
Nous écoutons tout de suite Louis Armstrong et je n'arrive pas à lire le titre sur l'écran.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child along with from home, a long ways from home. True believer, a long ways from home, a long sometimes I feel like a motherless child.
Why?
Why? Because nothing ever happens.
Nothing?
Well, nothing good.
So what's good?
Well, you know, I have a ball, man.
You sick?
No.
Hungry?
No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice.
Et c'était Louis Armstrong. Nous sommes toujours sur ma radio. J'espère que vous passez une bonne soirée et tout de suite nous passons à l'horoscope.
L'horoscope.
Et nous retrouvons Claire pour l'horoscope. Comment vas-tu, Claire? C'est la première pour toi.
Et oui.
Tu remplaces notre cher Ulysse, qui n'est pas Ulysse, pardon, Nicolas. Je suis totalement perdu.
C'est pas grave.
Excusez-moi.
C'est pas vraiment prévu, mais oui, je le remplace.
Pas de problème. Nous allons t'écouter du coup pour l'horoscope.
Et oui, alors je vais commencer par les béliers. Alors votre carte du ciel est perturbée par la position extrême de la lune. Ceci n'est pas sans conséquence sur votre humeur du jour et sur vos relations avec les autres. Mettez un peu d'eau dans votre vin et essayez de rester aimable. Ensuite, taureau. La position des planètes forme un cercle vertueux et protecteur pour vous. Vous vous sentirez léger et prêt à prendre des risques. Votre capacité d'analyse des situations sera décuplée et vous permettra de garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Mmh.
Gémeaux, carpe diem. Telle sera votre devise du jour, célibataire. Cancer. Cette journée se verra peut-être marquée par le retour imprévu d'un ex-partenaire de vie qui essaiera de se montrer son meilleur jour afin de recoller les morceaux. Ne soyez pas trop dur car certaines personnes pourraient vous le reprocher à terme. Lion. Attention téléphone. Il faudra rester toute la journée près du téléphone fixe et ne pas égarer votre portable dans la mesure où un appel très important devrait avoir lieu.
Non,
surtout,
de rester chez soi toute la journée, quoi, c'est
oui,
impossible.
Oui, c'est ça, bah, c'est les lions, hein.
Très bien.
Les flémards, hein. Surtout, prenez des notes car vous allez devoir gérer des choses et que vous ne connaissez pas très bien. Vierge, les astres sont positionnés idéalement pour permettre aux natifs de votre signe astrologique d'envisager des associations fructueuses. Au besoin, n'hésitez pas à vous faire assister par un voyant. Parce qu'un aveugle, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Balance. Après tant de sacrifices et d'investissements, vous vous entrez dans une phase de récolte des faveurs. Profitez bien de ces moments qui sont l'aboutissement de tous vos efforts passés. En amour, soyez attentive ou attentif aux désirs et aux attentes de votre partenaire. Scorpion, une journée sympathique et sans histoire vous attend. Elle sera idéalement complétée par un petit repas entre amis. Au cours du dîner, il est possible qu'un ou qu'une inconnue vous aborde. Cette personne ne demandera qu'à faire votre connaissance en privé. Bon. Capricorne. Aujourd'hui, c'est à votre tour de savoir gérer ce facteur chance que vous propose votre signe astral. Votre cycle astral, excusez-moi. L'étude de votre thème vous permettra de prendre conscience de l'ampleur de cette période. Consulter un spécialiste en études astrales est fortement conseillé.
Très bien.
Et enfin, nous allons finir par les meilleurs, les poissons.
D'accord. Oui. Les poissons, en fait, c'est ça.
C'est ça, oui, un petit peu.
Très bien.
Saturne annonce quelques perturbations légères et sans gravité pour vous aujourd'hui. Surtout, restez calme et ne vous stressez pas. Tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement.
Et merci beaucoup à toi, Claire. Tu t'es très bien débrouillée pour cette première fois.
Merci à vous.
À l'horoscope, j'aime toujours autant cette musique de fond. Je vois mon acolyte qui danse à côté de moi. Et d'ailleurs, c'est à son tour car c'est l'heure du point info.
Maintenant, les infos.
Et nous nous retrouvons avec Titouan qui dansait à côté de moi il y a quelques secondes. Comment vas-tu, Titouan?
Mais très bien, et toi, Nathan?
Mais ça va parfaitement bien, je suis impatient de savoir les nouvelles du jour.
Alors malheureusement, aujourd'hui, rien de très drôle, hein. Alors tout d'abord, politique. Gilbert Cuzou, conseiller régional d'Île-de-France et ancien membre de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle et viol, a appris l'agence France Presse. Monsieur Cuzou, 34 ans, est visé par 5 plaintes de militantes du Parti Socialiste qui ont participé de près ou de loin à la campagne pour l'élection présidentielle de Benoît Hamon. Sa garde à vue, qui a débuté mardi, était toujours en cours ce matin, a précisé cette source. Après le dépôt de 2 premières plaintes, une enquête préliminaire avait été ouverte en octobre. Gilbert Cuzou avait alors été exclu de son groupe politique, à savoir Alternative écologique et sociale, au Conseil régional, alors qu'il avait intégré la formation quelques jours plus tôt. Pour continuer dans la même thématique, statistiques. L'affaire Weinstein a-t-elle libéré la parole? Les phénomènes Balance ton porc et autres MeToo apparus sur les réseaux sociaux poussent-ils les femmes à davantage dénoncer les violences sexuelles dont elles sont victimes? C'est ce qu'indiquent en tout cas les statistiques de 2017 relatives au dépôt de plaintes en commissariat de police et en brigade de gendarmerie.
Ah d'accord.
Eh oui. Un rapport du ministère de l'Intérieur, mis en ligne aujourd'hui, établit que les viols et les autres agressions sexuelles portées à la connaissance de la police et de la gendarmerie sont en nette hausse en 2017, respectivement plus 12% et plus 10%. De plus, cette augmentation se concentre sur la fin de l'année. Ainsi, au quatrième trimestre, les plaintes pour agression sexuelle progressent de 31,5%, ce qui est énorme par rapport à la même période en 2016. Au total, 40 400 personnes ont porté plainte pour des violences sexuelles en 2017, dont une sur quatre dans un cadre intrafamilial. Les auteurs insistent sur l'interprétation de ce rebond qui peut traduire une révélation croissante des faits subis par les victimes et parfois de faits anciens aux forces de sécurité. Attention donc, ils ne privilégient pas l'hypothèse d'une augmentation des violences sexuelles perpétrées. Et pour finir, transport. Un train a déraillé ce matin près de Milan, faisant au moins 3 morts et 10 blessés graves, dont 5 avec un pronostic vital engagé. Le déraillement du train régional exploité par la société Trenor a eu lieu vers 7h dans la gare de Piotello Limito, à une quarantaine de kilomètres de Milan, et a fait aussi une centaine de blessés légers, a précisé Christina Corbetta, responsable régionale des services de secours à Milan.
D'accord.
En fin de matinée, les opérations de secours étaient terminées, toutes les personnes présentes à bord du train ayant été évacuées. Les gens qui vont bien sont dans 2 gymnases, l'un à côté de l'autre, à Segrate. Ils sont soutenus par des psychologues et d'autres personnes qui contrôlent les blessures, a expliqué un coordinateur de la protection civile. Chers auditeurs, Claire, Nathan, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de rester informés.
Merci à toi, Titouan, pour ce point info. Et tout de suite, pour se remonter un petit peu le moral après ces news, nous écoutons Killing Alleluia de Chaka Ponk.
I'm feeling something. You don't think that I'm feeling something. My life's a great odyssey.
Ma radio.
Et tout de suite, 120 secondes people.
120 secondes people.
Et pour cette chronique, nous retrouvons avec Ambre. Comment vas-tu, Ambre ?
Bien et toi ?
Ça va très bien. J'attends avec impatience ce que tu vas me dire sur les célébrités, même si je ne suis pas trop renseigné là-dessus, mais je t'écoute du coup. Nous t'écoutons.
Super, c'est parti. Donc, devine, Nathan.
Oula.
Comment s'appelle le nouvel enfant de Kim Kardashian et Kanye West ?
J'ai pas la moindre idée.
C'est une ville des États-Unis.
Alors là ?
Non, tu connais pas les
Washington.
États-Unis. Non, c'était Chicago, mais.
Ouais, j'étais presque.
T'étais presque, ouais. Donc, ça craint toujours autant leur prénom. Sinon. On a M. Pokora, donc en gros, il a décidé de se couper des réseaux sociaux et de quitter la France.
D'accord.
Bon, bah tant mieux pour lui.
Il fait ce qu'il veut après, ça peut être une libération culturelle.
Oh bah.
Se libérer des réseaux sociaux, ça peut être intéressant aussi.
Ouais, c'est à voir, à réfléchir. Et sinon, je sais pas si tu connais Aziz Ansari.
Absolument pas.
Bah moi non plus, c'est une star de Master of None.
Merci.
Genre c'est une série télévisée et en gros, il a été accusé d'inconduite sexuelle. Donc en gros, en fait, t'as une femme qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en septembre, à l'issue d'un rendez-vous. Et lui, il a réagi dans un communiqué en disant que, ben, en fait, il n'avait pas pensé que l'acte sexuel auquel ils se sont livrés était parfaitement consenti et qu'il n'avait pas pris la mesure de l'événement. En fait, il
s'est
pas rendu compte de.
Il a pas fait exprès, quoi.
Bah non, il a tiré un petit coup puis après. Voilà.
Merci Ambre pour ces termes toujours plus classe.
Ah oui, j'arrête pas et c'est tout pour moi du coup pour
d'accord.
Ce soir.
D'accord. Merci. Eh bien, c'était une chronique 100 secondes people très courte et nous allons passer tout de suite à la nouvelle chronique qui est manga et animé dont je suis impatient de découvrir le contenu. Et nous retrouvons Louis qui va nous faire cette nouvelle chronique. Il était avant à l'émission Cuisine, mais il a proposé sa nouvelle chronique qui est manga et animé. Louis, nous t'écoutons.
Bah écoute, merci Nathan, salut tout le monde. Donc dans cette chronique, en fait, je vais vous parler un petit peu des dernières sorties en termes de manga et d'animé. Je vais aussi vous présenter mes mangas et mes animés préférés. Je vais aussi vous parler un petit peu de la culture nippone. Et j'aimerais aussi parler donc des mangas français, parce qu'il faut savoir qu'en fait en France, Nathan, nous sommes le deuxième pays au monde, en fait, le plus gros consommateur de mangas.
Ah oui, d'accord.
Derrière le Japon, évidemment.
Oui.
Et il faut savoir qu'on a vraiment des pépites en termes de mangas français, donc j'aimerais en parler.
D'accord, bah, tu vas m'apprendre plein de trucs, parce que moi le manga, je connais pas du tout.
Ah, mais écoute, pas de soucis.
Je n'en lis pas, je n'en regarde pas, je sais pas comment ça se dit chez vous, parce que moi c'est pas trop mon truc, j'ai jamais vraiment essayé, mais écoute.
Bah écoute, après
peut-être que tu vas me faire aimer le manga.
Bah j'espère bien, écoute. Donc je vais donc vous parler de Happiness. Donc c'est un manga japonais. Il a été créé par Oshimi Shuzo. Il sort début janvier. Enfin, il vient de sortir. Le premier tome vient de sortir en janvier. Donc Oshimi Shuzo a créé aussi le manga Les Fleurs du Mal, qui est un manga drama qui parle beaucoup de l'adolescence en fait. Et donc un résumé très bref pour Happiness. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est le souffre-douleur de sa classe. Et tout d'un coup, un jour, une fille très étrange, elle l'attaque, en fait. Donc, il s'avère que c'est une vampire. Et que, du coup, elle lui suce le sang. Donc, elle le laisse à moitié mort.
Carrément.
Ouais, carrément.
Trash, comme ça.
Et elle le laisse à moitié mort. Et en fait, elle lui laisse deux choix. Les deux choix sont soit il meurt, ou soit, soit il devient comme lui. Donc, il vit. Donc, il choisit la deuxième option. Il choisit de vivre.
Donc il réalise, un vampire, du coup.
Ouais, du coup, il réalise qu'il a une force surhumaine, qu'en fait, il est plus du tout martyrisé par ses camarades. Sauf qu'en fait, je t'en dis pas plus, mais voilà, il quitte un enfer pour un autre.
D'accord, il va découvrir d'autres choses qui vont pas forcément lui plaire.
Voilà, en fait. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce manga, c'est que déjà il y a beaucoup de suspense. C'est quelque chose de très intéressant. Les points forts, je pense que c'est un manga qui parle de l'adolescence, en fait. Il sublime l'adolescence. Il y a beaucoup de métaphores sur le fait de passer d'adolescence à l'âge adulte. Et d'une manière assez monstrueuse. Et je trouve que voilà, cette métaphore est très intéressante. Et voilà, il y a encore beaucoup à dire, mais bon, je vous laisse découvrir cette petite histoire.
Très bien.
Le prochain tome sort normalement en mars 2018.
D'accord.
Et pour terminer, je vais vous parler des sorties prévues pour printemps 2018, donc les sorties les plus attendues. En animé, il y a donc My Hero Academia, la saison 3, aussi la saison 3 de Food Wars. et la dernière saison de Shingeki no Kyojin. Voilà.
D'accord, bah merci. Tu m'as appris des choses, ça m'a donné envie peut-être d'essayer, tu vois, parce que j'ai jamais tenté, du coup, pourquoi pas.
Tant mieux, c'est le but.
Tu m'en donneras et j'irai lire tout ça.
Pas de soucis.
Nous écoutons tout de suite Marlène de Nordésir, vous êtes bien sur ma radio. Et c'était Marlène de Nordésir et tout de suite la chronique sport.
Ma radio.
Et nous retrouvons Simon pour cette chronique.
Salut Nathan, salut tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Bah ça va très bien, j'attends de savoir ce que tu vas me dire sur le sport cette semaine.
Alors, on va parler de handball, on va parler de ski globalement, ski de fond, ski alpin.
D'accord.
Et on va parler de l'Open d'Australie. Donc on va commencer par le handball, hein, bon, qui est de toute façon le meilleur sport jamais créé. On va pas se le
très bien, donc tu fais du handball.
Exactement, donc la France qui s'est qualifiée face à la nation... face à une autre nation majeure du handball mondial, la Croatie. La Croatie qui a été longtemps nos bêtes noires, champion du monde, champion d'Europe, ça a changé, machin. On a gagné 30-27. Donc la France qui finit première de son groupe avec deuxième la Suède. Donc on élimine la Croatie, donc c'est
ce qui est une bonne chose.
Un de moins
très bonne chose.
C'est déjà très bien. Et on va rencontrer l'Espagne en demi-finale. Et moi, j'aime pas trop l'Espagne. J'ai jamais aimé jouer contre l'Espagne. Enfin, j'ai pas joué contre l'Espagne.
Oui. Ton équipe a joué contre l'Espagne.
Voilà, donc l'équipe de France, j'aime pas trop quand je joue contre l'Espagne. C'est souvent très difficile, un match très très poussé. Ça va être un beau match. Et puis, bon, espérons qu'on va gagner quand même.
Et oui,
et l'autre demi-finale, c'est Danemark-Suède. Donc en favori, bien sûr, c'est le Danemark. Danemark, voilà, champion du monde 2016. On les a retrouvés en demi-finale en 2017 chez nous. Donc voilà, très 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 gros adversaire.
On l'aura compris, tu n'aimes pas du tout le handball, Simon.
Pas du tout, je déteste ça.
Très bien.
Alors, on va parler maintenant de ski de fond donc pour les JO 2018. Mmh. La Norvège, alors le comité olympique de Norvège qui fait quelques bêtises pour moi, après avoir désélectionné Ola Einar Bjørndalen, donc une légende du biathlon, elle décide de retirer Peter Nortug. Donc ça dit pas grand monde, ça dit
on
peut-être...
On comprend pas trop ce qui se passe. En...
Peter Nortug, c'est le meilleur fondeur des années 2000. C'était God.
C'est la personne à ne pas supprimer de l'équipe, en fait.
13 fois championne du monde, que ce soit en sprint ou en individuel, que ce soit en skating ou en classique. Enfin, voilà, le mec, c'est le boss, quoi. Et il sera pas aux Jeux Olympiques.
Très bien.
C'est très, très bizarre.
Peut-être qu'ils ont pas envie de gagner de médaille cette année.
Ah, je sais pas. Il est
une raison.
Alors, soi-disant, ce serait pour cause de maladie.
D'accord.
Donc, je sais pas. C'est tout ce qu'on a pour le moment. En ski alpin, Marcel Hirscher obtient le record de victoire à Schlamming devant son public face à son ancien compatriote Mayer, avec un total de 54 victoires en Coupe du Monde. Les Françaises en ski alpin, qui ont un résultat plutôt moyen. Tessa Worley qui ne prend pas la victoire face à Michael Schifrin qui était tombé. Elle finissait toujours deuxième et voilà. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci à toi Simon, nous sommes un petit peu pressés par le temps et du coup nous allons enchaîner sur les sorties culturelles. Très bon Stéphane, comment vas-tu Stéphane?
Bonjour Philibert, pardon Nathan, j'ai mauvaise vue, c'est embêtant en radio.
C'est embêtant un peu, oui.
Alors Nathan, que veulent les jeunes aujourd'hui?
Je ne sais pas, du tout.
Bah déjà, ils veulent réussir leurs études, et ensuite seulement ils veulent s'amuser. Et oui Nathan, les études avant tout, c'est important.
Très bien.
Bon, fini le discours de grand-mère sur la réussite avant tout, et place à l'amusement, car oui, l'exercice social fait partie intégrante de la vie d'un étudiant. Et pour ça, il a besoin de...
De s'amuser.
De sortir.
De sortir, bah oui, bien sûr. Pardon.
Alors sortir de chez le coiffeur, pourquoi pas.
Ouais.
Sortir pas assez couvert, pas bien. Sortir avec une fille, sympa. Ouais. Sortir du BTS à 20h, trop impliqué. Sortir en boîte et perdre de l'audition, pas ouf. Sortir un pistolet dans un commissariat, vraiment pas ouf. Sortir par une porte de sortie, logique. Sortir de son lit facilement, impossible. Sortir sans parapluie à Montbéliard, compliqué. Sortir en concert, ça y est, là, je crois qu'on touche à ma chronique.
Les sorties culturelles.
Eh oui, ce mois-ci, en Franche-Comté. Demain, Rock Voisine passe pour un concert endiablé au Micropolis de Besançon. Gros concours de tarot à La Plain et Grand Essart, le nom est long, c'est vrai. À Bétoncourt, pas loin d'ici, il y a ce vendredi un vendredi jazz. Hommage à Chet Baker avec un trio jazz, ça s'annonce plutôt sympa.
Je profite juste, tu as dit concours de tarot, on a le champion de France de tarot avec nous sur ma radio,
c'est
qui
vrai.
Est autre que Simon, le présentateur de l'émission sport.
Et je rajoute que c'est cocasse que le mec qui fait l'émission sportive, ça soit le champion de France de tarot.
Non, quoi. Monstrueux.
Énorme, non. Vous êtes impressionné, non?
Champion du monde, je crois.
Non, mais je me disais qu'il avait des gros bras, mais c'est les cartes.
C'est fou, c'est les cartes, exactement.
Ouais. Bref. Le 27 à Lons-le-Saunier, concert trio Festoso. Ça s'annonce aussi sympa. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tente bien. Sinon, qu'est-ce qui se passe de plus divertissant en termes de jeu? Quel est le jeu par excellence des 60-70 ans?
Le bridge.
Non, il y a encore un peu, c'est avec des chiffres, des grilles et tout. Il y a des numéros vraiment intellectuels.
Le loto.
Yes.
Ah là là, loto.
Et où est-ce qu'on retrouve le loto? À Saint-Hippolyte. Et attention, le même jour, au Russet, super loto. Et là, à partir de là, difficile de faire un choix. Sinon, toute l'année, à Montbéliard, bientôt, à partir du 27, c'est à Montbéliard toute l'année, il y aura divers jeux de lumière, spéciale dédicace à Manon en régie, dans les collections des musées de Montbéliard. J'ai craché.
Excellent.
Elles sont admirées, et c'est... admirées, pardon. Ça a l'air très intéressant.
Merci.
Et enfin,
beaucoup,
pour finir, vous pourrez aller écouter Jessica Hoop à ma scène de Montbéliard. Et surtout, on n'oublie pas les jeunes, quand on sort, on se...
Bourre la gueule.
Non, on se marre.
Bah, moi, j'aime bien faire les deux.
Allez, salut.
Merci Stéphane. Tout de suite, nous écoutons Flore Del Fango. Vous êtes bien sûr ma radio. J'espère que vous passez une excellente soirée.
Presse.
Et nous retrouvons Jules pour la rue de Fraisse. Bonsoir Jules.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Nathan. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tour de la presse et de son actualité. Petite question, comme d'habitude, est-ce que tu sais quelle est l'actualité de la semaine?
Non, je suis désolé.
Alors tout d'abord, l'actualité, c'est l'ouverture du nouveau site qui affectera les étudiants pour les formations après le lycée. C'est bien sûr le site Parcoursup. Donc ce nouveau système reposera sur un système de sélection pour l'entrée dans les formations post-bac. Même si le tirage au sort était déjà critiqué pour ses injustices, la sélection, elle est aussi pour certains syndicats étudiants. Donc vous pouvez retrouver toutes les raisons de manifester dans l'Humanité dimanche.
D'accord.
On parle aussi beaucoup de Carrefour, le sixième groupe de grande distribution mondiale veut modifier en profondeur la grande distribution. Et cela se passe, selon le patron Alexandre Bompard, par une suppression de 2000 emplois. Vous retrouverez donc différents articles sur ce sujet dans Le Monde aujourd'hui en France et l'Humanité d'hier. Pour finir, vous retrouverez dans La Croix un dossier complet sur le sucre, qui est un véritable fléau, car nous en retrouvons dans la plupart des produits transformés, et même jusque dans les soupes industrielles. Ceci n'est bien sûr pas bon pour la santé, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans La Croix. Donc on en a fini pour l'actualité. Est-ce que tu connais le journal que je vais te présenter? Donc c'est l'Hebdo.
Non.
Hebdo.
Hebdo, d'accord. Ça me dit quelque chose, à mon avis je l'ai entendu quelque part, mais est-ce que je l'ai lu déjà? Je pense pas, non.
Alors ça m'étonnerait que tu le connaisses, parce que c'est tout simplement le numéro 2 seulement.
D'accord.
Il vient d'être créé. Donc que tu vois que même en 2018, on crée encore des titres de presse. Et ce nouveau magazine a tout pour durer car il est vraiment de qualité. Les articles sont plutôt courts mais permettent d'avoir un aperçu rapide du sujet traité. Il n'a pas vocation pour rentrer dans les détails mais plutôt de faire un état des lieux. Et en plus, les sujets sont très variés. Donc c'est un titre qui est parfait pour être emmené avec soi et se divertir tout en étant au courant de l'actualité. D'ailleurs, cette semaine, Hebdo s'intéresse aux entreprises qui fonctionnent sur des systèmes hiérarchiques alternatifs, sans patron, ou encore sur le mystérieux nuage radioactif qui a traversé l'Europe en fin 2017. Donc en bref, c'est un très bon titre, surtout si vous avez 3,50€ à mettre dans la presse par semaine.
D'accord, merci beaucoup pour cette chronique presse.
J'ai pas fini.
Ouais, mais nous sommes pressés par le temps, je suis vraiment désolé Jules.
C'est décevant pour la dernière émission.
Je suis vraiment désolé. On est obligé de continuer, ça me fait beaucoup plaisir que tu sois là. On fera un allongement de ta chronique, d'accord, la prochaine fois?
Pas de problème.
Comme ça, tu auras tout le temps que tu veux. Nous écoutons tout de suite Clap Your Hands de Parov Stellar, vous êtes bien sur ma radio.
Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Drop a little bit, beat it out, make a bit. Everybody's happy when you're doing a jive. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Drop a little bit, beat it out, make a bit. Everybody's happy when you're doing a jive.
L'assiette du jour.
Et nous nous retrouvons avec Pauline pour l'assiette du jour. Je tiens quand même à préciser que c'est sa première émission, sa première chronique. Donc soyez indulgents avec elle. Elle débute, elle va nous faire une super recette, j'en suis sûr.
Merci Nathan. D'abord, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a le vendredi 2 février ?
La chandeleur ou le premier ? Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça.
Si, bravo, oh là là. Bravo, très bien. Donc pour changer des crêpes classiques sautées à la poêle, je vous propose aujourd'hui un millefeuille de crêpes aux poires. Ah. Donc c'est très court, ça se fait en 35 minutes, c'est pour 4 personnes, c'est facile, c'est bon marché pour les étudiants ou pour les gens qui n'ont pas d'argent. au niveau de la pâte à crêpes, donc c'est du classique, hein, 100 g de farine, 2 œufs, 25 centilitres de lait, 10 centilitres de rhum, consommé avec modération, une cuillère à café d'huile et une pincée de sel. Pour la garniture, il vous faudra 5 poires, 40 g de beurre, une pincée de cannelle, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et 2 cuillères à soupe de rhum également. Donc, au niveau de la préparation de la pâte à crêpes, il faut préparer la pâte à crêpes.
Pas besoin de pas besoin de crêpes basiques. Pâte...
Exactement. Il faut peler les poires, enlever le cœur et les pépins, couper-les en tranches environ 1 cm d'épaisseur. C'est très précis.
D'accord.
Il faut ensuite les faire sauter dans une poêle beurrée, les saupoudrer de sucre, laisser légèrement caraméliser et les flamber au rhum. Ensuite, dans une poêle à blinis, il faut enduire le beurre, faire cuire les crêpes et garder-les au chaud. Ensuite, il faut construire un petit millefeuille en alternant crêpes et poires, etc.
Comme
il faut
un millefeuille basique, en fait, au final. C'est la même chose, mais avec des crêpes.
Exactement. Et ensuite, il faudra saupoudrer de sucre glace, décorer d'une petite feuille de menthe, si ça vous fait plaisir. Il faut servir le millefeuille accompagné de crème anglaise ou de crème fouettée ou une boule de glace vanille.
Il faut avoir la dalle, quand même, pour ce dessert. Hein. Parce que c'est quand même fat, quoi. Faut avoir, c'est un bon dessert. Quoi.
C'est un bon dessert.
Mais ça change pour la chandeleur, du coup, c'est sympa. C'est tout.
C'est tout.
Bah c'est sympa. C'est pour combien de personnes, par contre ?
Pour 4.
Pour 4 personnes. Eh bien, écoutez, j'espère que vous ferez le test chez vous de faire ce petit millefeuille de crêpes. Merci, Pauline, de nous donner envie de manger à chaque fois. Non, pas à chaque fois, parce que c'est ta première, mais merci beaucoup à toi. Et tout de suite, nous écoutons Dips de Baxter Dury.
Bye.
Et c'était Lips de Baxter Terry. Nous sommes bien sur ma radio et tout de suite la chronique judiciaire. Et nous te retrouvons Romain pour cette chronique.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on m'avait fait un jingle.
Non.
J'allais être un peu... Un peu secoué. Bon, écoutez, ce soir, il n'y a pas grand-chose pour être heureux. Hein. C'est déjà la dernière émission, malheureusement.
C'est dommage.
Et j'ai toujours pas de jingle. Donc ça me vénère un petit peu. Et en parlant de mou un petit peu, on va parler du plus gros mème que l'histoire ait jamais connu. Je parle bien sûr du Grumpy Cat. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mème, c'est pareil. Du pareil au mème.
Merci
Nat. Alors, tout simplement, on va parler du Grumpy Cat qui a été gagnant d'un procès qui a été mené contre la société Grumpy Beverage. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos circuler sur Internet. Donc, Grumpy Cat, en fait, c'est un chat qui est connu à travers le monde pour ses photos où il
tire la gueule.
Tire la gueule, exactement. On est clairement sur une non-agréabilité. Et en fait, la propriétaire qui s'appelle Tabata Bundusen, c'est pas sa faute, elle a donc décidé avec Nick et son père Sanford, donc Nick Sanford et son père, de créer un breuvage, donc Grumpy Breuvage, qui s'appelle le Grumpuccino.
D'accord.
Et en fait, c'est un café glacé. Donc, ils ont établi un contrat.
Sur les longs, quand même.
Bien sûr, mais tout est bon pour se faire de l'argent. Moi, j'ai déjà essayé de vendre mon corps, ça n'a pas forcément marché.
Très bien, merci.
J'ai un café, mais pareil, personne n'en voulait. Donc, ils ont décidé de faire ça. Et en fait, à la sortie du café glacé, les Sanford ont décidé aussi de sortir du café moulu. Et c'est quelque chose que la propriétaire du chat n'avait pas prévu à la base.
D'accord.
Donc, elle a décidé d'assigner la société Grumpy Beverages. Big up à Roberto pour justement les mener et réclamer 1,2 million de dédommagement pour violation de droit d'auteur.
Ah, quand même.
Voilà. Donc on est sur.
Somme,
mais c'est les Américains,
ils sont un peu
toujours un peu plus quoi. Donc au final, les juges ont décidé de plaider la cause de la propriétaire et du Grumpy Cat en demandant à la société de verser 710 000 dollars à la propriétaire du Grumpy Cat, ainsi que 1 dollar symbolique pour la violation de contrat.
Le petit dollar.
Et on peut dire finalement que ce café avait un goût amer.
Merci.
Voilà, c'est la blague de trop.
Maintenant, ça, c'est fini, en beauté. Merci à toi.
J'en ai d'autres, je peux ou pas? On a le temps.
On est un peu pressé par le temps.
On
va s'arrêter sur les.
C'est dommage parce que j'en ai vraiment beaucoup.
On va les garder pour peut-être une autre fois.
Une autre fois.
Allez.
Ouais. Allez, on fait
merci
ça.
À toi pour cette chronique.
Merci beaucoup.
Et nous passons tout de suite à l'émission musique.
L'émission musique.
Et nous nous retrouvons avec Loïc et Ulysse. Il me semble que c'est Loïc qui commence, peut-être.
Oui, salut Nathan, salut Ulysse.
Salut.
Alors aujourd'hui, pour l'émission musique, cette fois, je ne vais pas m'occuper de l'actualité parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et je vais m'occuper de vous faire découvrir une petite musique, pareil pour Ulysse. Ensuite, on enchaînera comme d'habitude avec le focus de Philippe. Et pour enfin terminer avec un live. Donc, je vais vous parler du groupe Vitalisme, qui est un groupe de progressif et de djent instrumental, caractérisé par des riffs lourds et suivi par des mélodies intenses et accrocheuses. Le groupe a été fondé en juillet 2014 par Ed Garcia, à Rio de Janeiro, au Brésil. Aujourd'hui, on va s'intéresser au morceau Pagan Part 2, sorti tout récemment en décembre 2017.
D'accord.
Donc on est ici face à une composition assez classique au niveau des membres, mais efficace, donc deux guitares, une basse et une batterie, avec un son de guitare clean qui a du grain, une bonne grosse disto bien lourde, et le groupe nous fout littéralement une claque en alternant habilement entre des gros riffs, des passages clean plus calmes, et un excellent solo, le tout en jonglant un peu entre des signatures rythmiques peu communes. Donc si vous aimez les solos techniques mais recherchés, si vous aimez les riffs rentre dedans, ou encore... Si vous aimez les contretemps, cette musique est faite pour vous.
donc la musique qui nous a fait découvrir Loïc. Qui est maintenant, c'est Ulysse qui va nous faire écouter les musiques ou la musique qu'il a sélectionnée pour ce soir.
Bien, c'est une musique, et comme je te l'avais promis à la dernière émission, cette fois je fais du reggae.
Oh.
Et un groupe que tu aimes beaucoup, Nathan, oui. The Bink.
Oh là là, The Bink.
Je le sais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le titre Exile. Donc il y a un morceau de So What, le dernier album en date de The Bink. Mm-hmm. Donc c'est un groupe de reggae français qui a été formé en 1998 et qui est originaire de Saint-Étienne. Donc le groupe, il est composé d'un batteur, un guitariste, un bassiste, deux claviéristes et deux chanteurs.
Et oui.
Donc le titre Exile, c'est un peu un hymne et un hommage à tous ceux, à tous les anciens qui ont quitté leur pays pour offrir une plus belle vie à leur famille.
Mmh.
Donc ils parlent d'eux-mêmes à travers ce texte, les membres de The Bink. On entend à chaque refrain cette phrase « Nous sommes des enfants issus de l'exil » en fait. Oui. Ils parlent d'eux-mêmes et de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc ils montrent leur fierté à travers ce texte. Ils sont fiers d'être les héritiers de ces immigrants que sont leurs parents. Et le groupe clame haut et fort son appartenance au peuple français en même temps, hein, comme dans beaucoup de leurs textes, oui. ils prônent beaucoup l'intégration de ces gens issus de l'immigration.
Mmh.
Et ils le disent clairement et disent ils font partie de l'Hexagone en faisant référence à leurs ancêtres et donc à eux-mêmes. Et pourtant, ce que j'aime beaucoup et qui me marque, c'est qu'ils n'hésitent pas à se remettre en cause et veulent sentir que leurs ancêtres seraient fiers d'eux.
Mmh.
Donc The Bink, c'est un groupe
tout au long d'ailleurs de leur musique en fait, voilà. C'est un peu cette remise en question.
Et The Bink, c'est un groupe que j'aime beaucoup justement pour ça et qui prône l'intégration de personnes qui peuvent être parfois rejetées par leurs origines. Et donc on écoute tout de suite ces musiques.
Aujourd'hui nous soyons là,
yeah.
Ils se sont toujours battus à chaque instant. Seul l'assouvi guide les choix.
I say.
Tant de rois et de reines devenus ouvriers à l'usine, dans les mines, rien de familier. Tout quitter pour mieux vivre sans se renier. Les destins s'éparpillent comme nos lignées. De toujours vrais combattants, de vrais guerriers. Tous les jours travaillant la langue à manier. De la sueur, du sang, on est héritiers. Pour leur force et leur culture, les remercier.
Déterminés comme personne, à quitter le sol, pas toujours de manière évidente. Toujours prêts à fouiller le sol, forcément seul, à rechercher ce qui leur manque. Quoi qu'on en dise, ils font partie de l'Hexagone. Oui, quoi qu'on en dise, on fait de nous ce que nous sommes. Car nous sommes fiers du nôtre et de celui des autres.
Et c'était Exil de The Bink qu'on a pu notamment retrouver au festival 2017 de Rencontres et Racines, avec qui nous avons pu parler, avec l'organisateur pardon, tout à l'heure, en début d'émission. Et maintenant, je vais laisser place à Philippe pour son focus.
Merci, bonsoir Nathan, bonsoir Ulysse.
Bonsoir.
C'était bien parce que c'était une musique d'intégration, hein, contrairement à d'autres musiques qui sont basées sur la rébellion, sur l'opposition.
Mais oui.
Moi je vous propose encore la Scandinavie ce soir, mais même si on reste en Scandinavie, on change un petit peu de registre, hein, faut être un peu plus léger, plus décontracté et peut-être même un peu farfelu. En effet, Troïka, c'est le nom du groupe que je présente ce soir, a réussi à mettre du fun et de la légèreté dans son chaudron prog. Les musiciens de Troïka sont Auguste Ries au clavier, vibraphone chant, Simon Ulvenes Kvenerg, basse, guitare acoustique et chant, et Gert Hermansen, batterie et chant. Sur son site, le jeune trio norvégien prétend s'attaquer, enfin défier les limites de la musique pop. Qu'en est-il exactement? Donc son disque Ispael Vandette est son premier album, et il met en valeur les talents du trio et la polyvalence de son écriture. Leur pop progressive s'alimente à plusieurs foyers, donc le rock progressif des 70, trio, basse, batterie, clavier, la pop électro et le petit intermède jazzy fusion. Donc il y a un ajout de plusieurs instruments, la flûte, le sax, les cordes, le vibraphone, oui, donc la guitare acoustique quand
c'est
même.
C'est une variété d'instruments du coup dans
voilà,
la musique.
Voilà, c'est assez riche, par petites touches tous ces instruments sont placés. Donc ce n'est pas une pop standard. Si pop il y a, elle est quand même assez diversifiée et originale. Le rythme de la batterie est assez simple. Donc là, on est dans la pop, effectivement. On est dans un côté avenant. Il n'y a pas de rythme effréné et tout. Pas non plus de l'atmosphérique. Ça peut être du divertissement pop, tout ça. Mais ensuite, il y a une multiplication des cassures de rythme, des ambiances, ce côté insolite dedans. Et jazz, donc, qui suggère une recherche stylistique quand même un peu plus poussée que les choses habituelles. Un exemple, dans Mad for Tank, on a d'un seul coup un rythme, la flûte sur un rythme plus lent qui semble suggérer la rêverie, ou bien quelqu'un de perdu dans ses pensées.
Ah, d'accord.
Dans Till Next Farewell, qu'on a en fond là, mais je ne l'entends pas trop.
Moi je l'entends très bien, et c'est très agréable d'ailleurs.
Ça signifie jusqu'au prochain adieu, l'énergie et l'optimisme précèdent d'un seul coup un moment de vague à l'âme, produisant un sentiment de décalage appuyé. Donc il s'alimente à des sources électro, comme j'ai dit, puis progressives, par exemple les claviers vintage, œuvrent dans les deux registres. Le résultat, c'est 42 minutes de musique aventureuse, mais aussi groovy et rêveuse. Et c'est donc les trois termes qui font sens. Pour les comparaisons, donc tout ça, ces rythmes décalés, ces sons colorés de manière inhabituelle, ça renvoie à des groupes progressifs pas très connus des 70 mais néanmoins influents comme Gentle Giant ou National Elf, le mouvement Canterbury encore une fois, et Robert Viat par exemple. Ça vous dit quelque chose?
Non,
Rock Bottom peut-être?
Je suis désolé mais non.
Non.
Peut-être que tu peux nous faire découvrir justement.
Oui mais Robert Viat c'est un peu lent donc c'est un peu difficile à passer en radio.
On l'écoutera à
mais
côté.
Mais c'est
alors.
Très profond.
D'accord.
Donc ces artistes n'ont pas choisi la facilité. Leur premier album exploite donc ces qualités assez subtiles. Et donc on en redemande, on espère qu'ils poursuivront leur recherche au prochain album pour nous apporter plein de fraîcheur. On espère que le public suivra. Je vous propose d'écouter l'entraînant et sémillant Ed Spiel. Bonsoir.
C'était Troïka que nous a fait découvrir Philippe dans son focus. Et tout de suite, je vous propose de passer au live. Nous allons
écouter Kayla qui va nous interpréter un titre de Lara Fabian qui est « Je suis malade ».
Comme une orpheline dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais. Ça va faire bientôt 2 ans que je t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes morts. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un cossitio, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes morts et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade.
Et c'est Kélia qui nous a interprété ce titre de Lara Fabian. Et elle va enchaîner tout de suite sur Dernière danse d'Indila. Et c'était Dernière danse d'Indilia que nous a interprété Kélia, qui va nous rejoindre dans un instant pour le petit interview en compagnie de Ulysse. Ulysse, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi un peu ton avis sur ce qu'elle vient de chanter.
Je pense que tu sais que ces musiques ne font pas forcément partie de mon
registre. Oui, je sais bien, oui. Et d'ailleurs, du mien non plus. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est la qualité vocale pour l'âge qu'elle peut avoir, c'est impressionnant.
C'est très bon.
Et bonsoir Kélia.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va.
Est-ce que tu es contente d'être ici ce soir?
Oui.
Oui, tu es contente?
Oui, beaucoup.
Bah, nous aussi, on est contents de t'avoir avec nous. Et du coup, moi, je vais te laisser un peu avec Ulysse qui va, je pense, te poser quelques questions. Oui. Et voilà.
Donc déjà, bonjour à toi. Rappelle-moi, quel âge as-tu?
J'ai 10 ans et demi.
10 ans et demi. Donc, faut le dire, t'es quand même assez jeune et pourtant tu chantes déjà dans une radio telle que ma radio, qui est quand même une énorme radio internationale.
Une radio internationale écoutée sur toutes les ondes.
Faut le dire, y compris aux US.
Ah oui.
Donc, comment est-ce que t'en es arrivé à chanter comme ça à différents endroits?
Bah en fait, il y a la femme de mon papy, mais qui n'est pas ma mamie, parce qu'en fait, il s'est remis en couple. Mmh. Et ben, elle est chanteuse, en fait, et du coup, un jour, en fait, j'ai chanté devant elle, et bah, elle a vu que je chantais très bien, et après, quelques années après, on a commencé à faire des petites soirées.
D'accord.
Par exemple, j'ai fait la fête de la musique à Héricourt.
D'accord.
Cette année.
Bah, c'est très bien. C'est souvent comme ça que ça marche le mieux, quand quelqu'un se rend compte qu'on chante très bien.
Eh oui.
Ce qui n'est pas mon cas. Hein.
Ce qui n'est absolument pas ton cas.
Moi, j'attends toujours que quelqu'un se rende compte que je chante
oui,
bien.
Oui, mais déjà, tu joues de la guitare, c'est déjà ça.
C'est vrai, c'est un début. Donc, comment est-ce que tu en es venu simplement à la musique? Est-ce que tu chantes depuis un peu toujours ou est-ce que...
Non, en fait, j'ai vraiment commencé à chanter depuis seulement le début vraiment de l'année là.
D'accord.
2017. Début
d'accord.
2017.
Ah oui, d'accord. Tu chantes depuis même pas un an quoi.
Non. Bah un an du coup.
C'est... Bah ici, oui. Plus d'un an, pardon. Oui, bah, tu as commencé genre janvier 2017 par exemple, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais, d'accord. Ah ouais, donc ça fait un an que tu chantes.
D'accord.
Est-ce que tu as déjà pris des cours de chant?
Non, mais maintenant j'en prends un peu.
T'en prends maintenant? Donc t'as pris quelques cours de chant quoi.
Oui.
Donc 10 ans et tu chantes c'est comme vrai. Ça, c'est... j'imagine pas ce que ça peut être après quoi.
C'est vrai que c'est assez incroyable.
Est-ce que tu fais de la musique de base ou pas? T'as fait un instrument ou...
Non.
D'accord. Donc le talent.
C'est ça.
Tranquille.
Elle est tout simplement.
Talentueuse.
Bah écoute, on espère te réentendre
ah oui
le plus vite possible.
Est-ce qu'il y a quelque chose où on peut écouter tes morceaux? Une plateforme vidéo, une plateforme sonore? Non, peut-être pas encore.
Non. Non, mais peut-être.
Oui, peut-être. Les parents qui ont une plateforme à donner apparemment.
Non, mais je vais peut-être faire une chaîne
YouTube. Une chaîne YouTube, d'accord. Bah écoute. Dès que tu as ta chaîne YouTube, tu nous la donnes et on la mettra sur le site de la radio pour c'est que ça. Les gens aillent voir ce que tu fais. Ça marche?
D'accord.
Et merci beaucoup, merci à toi d'être venu ce soir. Merci à l'équipe de l'émission Musique qui a fait à chaque fois des super émissions et un interview plutôt sympathique. J'espère qu'on pourra te revoir dans l'émission, pourquoi pas, sur ma radio. Et puis,
aussi,
je te souhaite une bonne soirée et une bonne continuation.
Merci.
Ma radio.
Et c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une émission future. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine sur ma radio.
Ma radio.